106.9, Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Voici Patrick Lagacé.
Salut Patrick.
Salut Catherine.
T'sais, je le sais que tout a été dit, on se répète, on dit toujours la même chose. Patrick, je peux pas, je veux pas l'entendre. T'en as fait des dossiers, t'en as parlé. C'est inacceptable. On attend qu'un enfant meure. Ben oui, je te laisse aller, Patrick, parce que ça me choque.
Ben écoute, le principe à la DPJ, là, selon lequel l'enfant est toujours mieux dans sa famille, dans le milieu familial.
C'est pas vrai.
Mais attends, ce que je veux dire, c'est un principe qui est fort. Tu comprends? Et c'est un principe qui guide beaucoup d'actions puis de réflexions à DPJ. Moi, j'ai connu des gens qui ont voulu être famille d'accueil, tu sais, qui accueillent un enfant qui est justement sorti de sa famille. Et après ça, le nombre de chances qu'un père, qu'une mère peut avoir pour se reprendre en main, là, il y en a beaucoup, tu sais. Puis ici, ce qui étonne, c'est la gradation, je veux dire. Tu sais, c'est souvent facile de regarder dans le rétroviseur puis dire que tel organisme aurait dû faire telle affaire, tu sais, bon. Nous, quand on a l'avantage d'avoir du recul, c'est pas, on a tous 10 sur 10 sur notre bulletin.
Oui.
Mais dans ce cas-là, tu regardes les étapes, tu regardes la violence, tu regardes la cruauté, puis tu te dis, OK, puis t'es toujours pas sorti. Il y a moyen de se poser des questions. Ça, c'est évident, là. C'est pas superflu à matin.
Parce qu'hier, puis c'est drôle, mon collègue Claude Boucher est arrivé ce matin, il dit, Catherine, j'écoutais ça hier, c'est Aurore l'enfant martyr. Tu sais qu'Aurore l'enfant martyr, c'est pas loin de chez nous, là. C'est à Saint-Philomène de Fortierville. On s'entend qu'on parle de 1909. Mais c'est à peu près la même histoire. Il nous manque des détails, là, on va attendre. Mais c'est à peu près 100 ans plus tard, on vit la même chose, Patrick.
Moi, ce qui me frappe toujours avec le DPJ, c'est à quel point il y a, je te dirais, une sorte d'opacité. Okay? C'est dur de savoir ce qui se passe à la DPJ. Et il y a une partie de ça qui est compréhensible parce que on veut pas que les enfants soient identifiés. C'est un des autres principes dans la loi, là. Je veux dire, c'est dur de faire des histoires sur la DPJ parce que il y a tellement de choses que tu peux pas écrire qui risquent d'identifier l'enfant. Mais ça sert aussi, des fois, de paravent à cette organisation-là. On peut pas vous dire ce qui s'est passé. La loi nous empêche de parler. Ben oui, mais ça s'arrange tout le monde.
Ouais.
Dans ce cas-là, là, il va falloir qu'il y ait une forme d'enquête avec une reddition de compte. Tu comprends?
C'est sûr.
Il va falloir qu'on sache qui a décidé quoi à quel moment. Et est-ce que ces décisions-là étaient adaptées dans les normes, juste d'un point de vue humain, décente? Mais l'enfant est mort, là. Comme je te dis, on ne peut rien faire pour ça.
Non.
Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est éviter qu'une situation comme ça se reproduise. Puis pour ça, ben, ça va prendre une forme d'enquête qui n'est pas juste l'enquête de police pour savoir qui a fait quoi au point de vue criminel.
C'est parce que, sais-tu quoi, ce qui me dépasse, c'est quand dans la famille, puis c'est le cas, là, des membres de la famille, des proches se sont manifestés, ont voulu la sortir encore une fois de ce milieu-là.
Mm-hmm.
C'est là où je me dis... Mais voyons donc, il y a des gens qui ont assez de jugement. C'est comme si que moi, là, dans ma propre famille, je dis « Hey, il y a quelqu'un qui est martyrisé, je vais le prendre sous mon aile.
Oui. »
Comme, c'est là où je comprends pas, où ça bloque.
Hey, c'est... Ligoté, séquestré dans sa chambre à 7 ans. Puis, écoute, là, la petite fille est morte. Et ça semble être une mort épouvantable.
Oui.
Mais t'imagines-tu, je te dis pas que ça, c'est mieux, là, pas ça du tout. Là. Imagines-tu la vie qu'elle aurait probablement eue?
Ah non.
Tu sais, quand tu as ce genre de sévices-là à cet âge-là, de manière répétée, écoute, l'arbre pousse croche en maudit. Là.
Absolument. Bon, OK, on va y aller dans quelque chose de de moins émotif. Ça l'était émotif pour François Legault hier, évidemment, qui a cofondé Transat. Hier, on avait la conversation en équipe. Es-tu de ceux qui disent que le gouvernement doit sauver les fleurons québécois?
Bien, ça dépend quel fleuron.
Ah oui?
Ben,
Transat, faut-tu sauver ça?
Écoute, Transat, là, je t'avoue que j'ai des réticences, OK? Ça dépend combien ça coûte, ça dépend c'est quoi, à quel point ça prend de l'espace 10 puis du jus de cerveau du gouvernement pour et de l'argent pour sauver Transat, parce que Transat va être encore ici, Transat ne va pas déménager, là. Les routes lucratives... d'avions qui sont exploités par Transat vont continuer à transporter des Québécois un peu partout dans le monde.
Ouais.
Et, tu sais, quand on parle de sauvetage, Catherine, là, je veux dire, on vit sur un territoire immense qui s'appelle le Québec. On a décidé qu'on occupait tout le territoire. C'est parfait. Il y a des places au Québec où si t'as pas de char, tu peux pas bouger, là, tu sais. Mm-hmm. Le transport intercité, là, te rendre dans certaines régions du Québec, de Trois-Rivières, de Québec, de Montréal et aller-retour, pas facile. Fait que là, on va m'expliquer, là, qu'on va sauver une compagnie qui est cotée en bourse, qui va être rachetée potentiellement des centaines de millions, mais les Québécois sur leur territoire peuvent pas bien souvent se rendre par du transport intercité, par autobus, par train, etc., d'un bout à l'autre. Je trouve ça un peu bizarre, je t'avoue, parce que il y a des compagnies qui ont, disons, des importances stratégiques. Okay?
Ouais. Mm-hmm.
Je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Gaz métro, là, demain matin, et...
Attention, énergie!
Ben, énergie, pardon, t'as tout à fait raison.
Non, non,
mais tu comprends, il y a une certaine importance stratégique, Christy, ça chauffe le monde avec ça. Là.
Ouais,
bon. Ouais. OK, là, tu te dis, est-ce qu'il faut intervenir? On veut pas perdre les approvisionnements, etc. Parfait. Mais une compagnie de transport aérien qui se spécialise dans le tourisme, puis comprends-moi bien, là, j'aime bien, là, moi, Air Transat. Quand je peux voyager avec Air Transat, je voyage avec Air Transat.
OK.
Mais d'un point de vue stratégique, d'un point de vue national, il y a les jobs au siège social. Parfait, on se comprend là-dessus.
Oui.
Mais je veux dire, le Québec, les compagnies québécoises achètent des compagnies étrangères et vice-versa. Là,
ben voilà.
C'est pas à chaque fois qu'une compagnie québécoise est visée par une offre d'achat qu'il faut grimper dans les rideaux.
Ben, mais c'est ce qu'on fait. Et hier... Puis tantôt, on va en reparler en équipe parce que je sais que Raphaël est pas du même avis que moi, mais je me dis, OK, à chaque fois qu'il y a un fleuron québécois bon, qui quitte, on crie au scandale, c'est inacceptable. Parfait, moi, j'ai pas de problème. Mmh. Mais si on suit votre logique, ça veut dire qu'on va empêcher Couche-Tard d'abord d'acheter des Américains. Puis on va parce que tu comprends, si on y va d'un bord, on va y aller de l'autre bord. Puis il y en a des compagnies qui achètent ailleurs.
Pis, oui.
Donc, tu sais, c'est pour ça que j'ai fait attention.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas moyen facilement, disons, de... Tu sais, si ça coûte pas grand-chose en termes de trésor public, en termes de jus de cerveau, comme je te dis, OK, allons-y. Si l'effort, c'est de faire passer le pourcentage de d'actions que la Caisse détient dans une compagnie de X à Y, bon, ça va.
Ouais.
Mais là, attends une minute, là, je veux dire, est-ce qu'on va payer plus cher? Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense qu'il faut se poser la question à chaque fois. Puis dans ce cas-ci, tu sais, est-ce que c'est un fleuron? Oui, c'est un fleuron, c'est un symbole.
Mm-hmm.
Mais perdons pas là, le sens des perspectives. Là, hein.
Ouais.
C'est une compagnie bien gérée qui prend des Québécois et qui les amène dans des destinations étrangères.
Absolument.
Si ça marche pas demain, il y a d'autres compagnies qui vont faire ça.
Oui. Je vais parler de ta chronique de ce matin. Ces bons libéraux nommés juges. Tu m'as bien fait rire juste avec ton introduction. Tu dis, j'ai un peu l'impression d'être seul dans ma gang, mais j'y vais quand même. C'est épouvantable que le gouvernement de Justin Trudeau cherche à savoir qui est un « bon libéral » entre guillemets au moment de nommer des juges.
Bien, le processus de nomination des juges, pour prendre l'exemple du Québec, là, ça s'est assaini dans les dernières années. Il y a eu, on a eu une commission d'enquête, la commission d'enquête Bastarache, qui a été liée, Catherine, à un scandale. Marc Bellemare, ministre de la Justice, ex-ministre de la Justice, est sorti pour dire qu'il y avait de l'influence politique et de l'influence partisane dans le processus de sélection des juges. Bien, les Québécois ont grimpé d'un rideau, puis on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Et en effet, ça n'avait pas de bon sens. Ça a été modifié, parfait. À Ottawa, ce qu'on apprend, c'est que dans le dernier tamis, OK, quand on regarde la liste de candidatures des gens qui veulent être nommés juges ou progresser dans la magistrature, bien, le bureau de Justin Trudeau, le bureau du premier ministre, regarde si, parmi les candidats, il y a des gens qui sont sur ce qu'on appelle la libéraliste. C'est une base de données que le Parti libéral du Canada tient. Et ça sert à mobiliser ses partisans, etc. Là, t'sais, tous les partis font ça.
Il n'y a rien d'illégal là-dedans.
Absolument rien d'illégal. Catherine Godreau nous a donné X dollars en telle année. Ben, peut-être que si on envoie 27 emails avant la prochaine élection, elle va nous renvoyer un autre 40 $.
Ouais.
C'est ça qu'ils font.
Okay.
Mais là, ils veulent savoir si Catherine Godreau, avocate, qui sollicite un poste de juge, qui est dans le processus, ben, nous as-tu déjà donné? As-tu déjà mis une pancarte dans sa fenêtre?
Ouais.
Écoute, moi, je trouve ça épouvantable.
Ça l'est.
Et c'est le Globe and Mail qui a sorti ça. Et écoute, là, j'ai écrit que j'étais seul dans ma gang. J'ai quelques collègues journalistes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, j'en ai parlé. » Mais on est d'accord, j'en parlais avec des collègues ce matin. C'est une histoire qui n'a pas le retentissement qu'elle mérite.
Non.
Tu comprends?
Est-ce qu'il y a plus de retentissement au Canada anglais, Patrick?
À peine.
À peine, hein?
À peine. Écoute, c'est mon ami Daniel Leblanc du Globe and Mail qui est derrière cette histoire-là avec d'autres collègues. Et écoute, j'ai vu d'autres histoires de Daniel qui ont eu beaucoup de retentissement. Dans ce cas-là, je t'avoue, Catherine, je suis étonné. Et on regarde, là, il y a quelque chose comme à peu près... Écoute, je pense qu'il y a à peu près 300 nominations de juges depuis que Justin Trudeau est arrivé. Et sur ces 300... Je pense que c'est 289, là. Il y en a 25 % qui étaient des bons libéraux, qui figuraient sur la libéraliste. Les autres partis sont à... Je pense que c'est un total de 6 %
Puis comme tu dis dans ta chronique, tu doutes pas du professionnalisme de la magistrature, mais... Tu te questionnes sur le fait que des juges nommés sur la foi de référence partisane.
Regarde, hein? mon bug, là, Catherine, là, c'est quand tu te ramènes dans le passé, là, avant la commission Charbonneau, toutes ces histoires qui sortaient, OK? Il n'y a peut-être pas eu de corruption directe, là, OK? Là, en tout cas, on va s'en tenir un peu, tu comprends? Mais il y a eu une corruption morale. Puis pour moi, la corruption morale, elle procédait de la façon suivante. Catherine, tu as une entreprise, toi, de pavage. Hey! Écoute, on fait une activité de financement pour le parti. Le ministre va être là. Les tickets sont 500$. Viens donc, tu sais. Toi, là, le message que tu lis là-dedans, là, c'est quoi? C'est oui, le processus d'appel d'offres pour la réfection des rues et des autoroutes, là, je le sais que c'est supposé d'être objectif, mais on ne sait jamais. Je pourrais y aller, puis je pourrais me faire voir, puis me faire connaître. Puis on ne sait jamais, ça pourrait m'aider. Ça, c'est une forme de corruption morale. De la part des partis politiques, parce que tu dis quoi? Hey, prends pas de chance. C'est ça le message subliminal. Bien là, le message subliminal qu'on envoie aux avocats canadiens, c'est prends donc pas de chance. Si tu veux être nommé juge, là, donne donc au Parti libéral.
C'est exactement ça. Patrick, on s'en parle demain.
Ciao.
Salut, bye-bye. Patrick Lagacé, du lundi au jeudi, 7h15.